Néanmoins, à l'heure de l'oraison, il est très souhaitable de choisir un lieu de calme et de silence. On peut se retirer dans une église ou chez soi, dans une pièce, pardon, si petite soit-elle, consacrée à la prière. Mais bien peu nombreux, au moins en ville, ceux qui peuvent s'offrir un tel luxe. On peut du moins, tout simplement, avoir aménagé un coin de prière dans une pièce. Que ce coin demeure-t-il en permanence ou qu'il soit rapidement aménagé à l'heure de la prière. Il est souhaitable d'y disposer ce qui peut stimuler le recueillement et la prière. Par exemple, un choix de photos parlantes, un homme en prière, l'admirable visage du père de Foucault au soir de sa vie, l'intérieur d'un cloître, un enfant du Sahel dévoré par la faim, un simple paysage aux larges horizons. Pourquoi pas le crucifix, dont le curé d'Ars disait, en parlant de lui, le plus savant livre. Ou encore une icône devant laquelle on allumera une bougie ou une petite veilleuse à huile, selon la coutume de nos frères d'Orient. Certains disposent, comme le musulman, d'un tapis de prière pour créer un espace sacré. Éventuellement, un petit banc de prière, comme celui que je vous ai présenté l'autre jour, favorisant une attitude corporelle stable et éveillée. Il est très certain que pour presque tout le monde, le cadre importe beaucoup et favorise la prière. Après nous être demandé où prier, quand prier. Il est très souhaitable de déterminer à l'avance, une fois pour toutes, ou à la rigueur chaque jour, si on a des journées très différentes les unes des autres, l'heure où nous ne risquons pas d'être dérangés, où l'environnement est aussi calme que possible, où notre esprit est éveillé et libre. Les heures de fatigue sont certainement moins favorables. Heureux ceux qui peuvent situer, tout au début de la journée, leur rencontre avec Dieu. Il ne faut pas dire trop vite, comme je l'entends parfois, « À cette heure matinale, je ne suis pas parfaitement éveillé. » Si on attend d'être parfaitement en forme, on risque fort de ne pas prier souvent. Quant à l'objection, on a besoin de sommeil, c'est sûr. Et pour ma part, je dis volontiers qu'il faut bien dormir si l'on veut bien prier. Mais pourquoi ne pas se coucher une demi-heure plus tôt? J'ai constaté que tant de gens n'arrivent pas à se coucher et cependant ne font rien de bon de la dernière heure de la journée. Conseil à ne jamais oublier, à l'heure fixée pour l'oraison, il faut commencer sans délai. Car à ce moment-là, une meute de démons se déchaîne pour nous retarder. On constate en effet que mille et une choses nous sollicitent comme par hasard. Achever une tâche, donner un coup de fil à un ami, décacheter le courrier qui vient d'arriver, déchirer la bande du journal, ou tout simplement pour lire les gros titres à la une. Il ne faut pas être dupe, il importe de refuser net, sinon on est perdu. Sans compter que cela manque d'élégance de faire attendre le Seigneur, c'est le moins qu'on en puisse dire. Autre conseil qui n'a l'air de rien, mais dont vous découvrirez l'intérêt à l'usage. Au cours de la journée, il faut désirer, espérer, attendre son rendez-vous avec Dieu. Troisième question. Quelle durée consacrée à l'oraison? Un quart d'heure? C'est trop et trop peu. L'expérience montre que, où on l'abandonne, très vite, ou l'on opte pour la demi-heure. Il faut en effet du temps pour se dégager de soi-même et de ses soucis. Pour que notre être profond entre en jeu. Dans les débuts, on est tenté d'abréger le temps fixé, surtout si l'on a le sentiment qu'on perd son temps et que l'on serait plus utile ailleurs. Il ne faut pas céder. L'homme qui pratique l'héliothérapie est parfois tenté de se dire lui aussi « Qu'est-ce que cela peut bien faire à mes os que je m'expose immobile au soleil ? Je capterai aussi bien le soleil en vaquant à mes occupations. » Mais il sait bien que c'est faux et il continue sa cure. Il faut faire de même, poursuivre notre raison. On a l'impression de ne rien faire. Il ne faut pas se fier à ses impressions. Les impressions, c'est une catastrophe pour celui qui y prête attention. Dieu, lui, le soleil du monde spirituel, fait en nous quelque chose d'essentiel et qui nous échappe. Durer devant Dieu, c'est capital. Je le répète, car ce mot est essentiel, durer devant Dieu. Quatrième question. Faire appel à la participation du corps au début de l'oraison. Si le corps est tendu, crispé, il faut pratiquer la détente, nous en parlerons à une des prochaines rencontres. Si le corps, en revanche, est calme, détendu, non seulement il ne va pas faire d'obstruction, mais il est en mesure de prêter un concours actif à la prière. Et il ne faut pas manquer de faire appel à son concours, car s'il n'est pas avec nous, il sera contre nous. Pourquoi ne pas commencer par un signe de croix, très lent, chargé de sens? On peut aussi réciter une prière vocale avec lenteur, densité, à mi-voix. Il peut être bon aussi, pendant quelques instants, de s'incliner en signe d'adoration, ou encore de se prosterner à la manière du musulman, ou même de s'étendre de tout son long, le front contre terre, pour dire à Dieu notre dépendance et l'abandon de tout notre être à son amour. Le corps parle et Dieu comprend son langage. Cinquième question, ou cinquième remarque, à propos des motivations qui poussent à l'oraison. Ces motivations risquent d'être parfois ambiguës. Il faut apprendre à rectifier les unes, à cultiver les autres. Certains vont à l'oraison pour y expérimenter les dons sensibles du Seigneur, pour y trouver paix et repos à l'égard des travaux et des peines, ou encore pour obtenir des bienfaits psychophysiologiques dont on dit que l'oraison est la source. Certes, ces motivations ne sont pas mauvaises, mais celui qui accorde la première place à l'une ou l'autre de ces motivations ne saurait progresser vraiment dans la découverte de Dieu. Il faut être très vigilant. Facilement se glissent en nous ces motivations plus ou moins ambiguës, même quand on a une grande expérience de la prière. Le seul vrai motif de faire oraison est celui-ci. Dieu m'appelle, Dieu m'attend, Dieu m'aime, il a beaucoup à me dire et à me donner, je viens. C'est essentiellement pour lui et non pas pour moi que je vais à l'oraison. L'amour n'est vrai, vous le savez bien, que si d'abord on cherche le bien de l'être aimé. Dieu a une œuvre à réaliser en moi, par moi, à l'heure de l'oraison, je m'offre. après avoir traité des différentes conditions de lieu, de temps, de durée, de participation du corps, après avoir parlé des motivations, abordons ce qui est plus essentiel, la question des dispositions intérieures avec lesquelles il faut entrer en rapport avec Dieu au début de l'oraison. Tout d'abord, confessons que celui dont nous nous approchons est Dieu, le seul Dieu, le Dieu d'infinie majesté, à qui l'univers doit l'existence et sa permanence dans l'existence. Cette attitude, c'est l'adoration. Et sans adoration, pas de prière, c'est évident. Il faut d'abord être en face de Dieu pour prier Dieu et le reconnaître pour ce qu'il est. Si c'est au Christ que nous nous adressons, alors ne commettons pas l'erreur de l'apôtre Philippe qui s'est attiré une réprimande de Jésus. Comment, Philippe, depuis si longtemps que tu vis avec moi, tu ne sais donc pas que celui qui me voit, voit aussi Dieu, mon Père? Sachons voir et adorer Dieu en Jésus-Christ quand nous abordons Jésus-Christ au début de notre prière. Mais il est vrai, ce Dieu adorable est aussi mon Père, le Père d'infinie tendresse. Aussi bien, dès ce début de l'oraison, l'adoration se combine avec une confiance filiale sans réserve. Mais que cette adoration et cette confiance ne restent pas au stade d'une pensée floue, d'une rêverie. Il faut qu'elle se traduise en une relation de personne à personne. Ce que j'ai appelé, vous vous souvenez l'autre jour, la relation « je-tu ». Que ce soit une relation vivante qui se noue avec Dieu. Une relation qui fasse communiquer les deux partenaires. Et à ce Dieu, mon Père, je dirais que je veux être à sa disposition tout au long de mon oraison. Adoration, amour filial, relation je-tu, disponibilité, voilà ce que j'appelais les dispositions intérieures fondamentales. J'ai achevé avec cela ce que j'avais à vous dire sur les débuts de l'oraison. Je ne vous parlerai pas du corps de l'oraison puisque je vous en ai entretenu la fois dernière, mais il me faut vous faire quelques remarques sur la fin de l'oraison. C'est sans doute la partie la plus négligée. Il ne m'est jamais arrivé qu'un visiteur, s'entretenant avec moi, se lève tout à coup et sans rien me dire, sans me regarder, ouvre la porte et s'en aille, me laissant tout pantois avec une piètre idée de sa civilité. Eh bien, je le confesse avec confusion, ça m'est arrivé bien des fois de quitter l'entretien avec Dieu qu'est l'oraison de cette manière désinvolte. Et je pense que je ne suis pas le seul. Alors, réfléchissons à ce que doit être cette fin de l'oraison. Eh bien, d'abord, simple politesse, que l'on remercie le Seigneur de nous avoir accueillis et sans aucun doute, même si je n'ai rien perçu, de m'avoir accordé abondamment ses dons. Remerciement. Si je constate que j'ai divagué plus ou moins, je lui demanderai pardon de cette négligence, si tant est que j'en sois responsable. Il est des heures où c'est bien difficile de maîtriser ces divagations. Mais jamais je ne céderai à la tentation de juger mon oraison, de la déclarer mauvaise parce que j'ai été distrait ou sommeillant. Et surtout, je ne me laisserai jamais aller au dépit. Car, nous l'avons assez dit, la valeur de ma prière ne dépend pas de ma seule activité. J'ai la certitude, en effet, que Dieu, pendant tout le cours de mon oraison, a agi en moi, que le Christ a prié en moi, à une condition toutefois, que j'ai pris un bon départ, que j'ai réglé le fameux pilote automatique dont je vous entretenais la fois dernière. Autrement dit, que j'ai, dès le début de l'oraison, orienté mon cœur vers Dieu par un acte précis de volonté. Mais si j'ai fait cela, cette orientation demeure, quels que soient les incidents de parcours, du moment que je ne la rétracte pas. Et le Christ peut prier en moi. Et pourquoi ne pas terminer l'oraison par un geste, un signe de croix, un prosternement, ou par une prière vocale? Le pater est tout indiqué, mais un pater récité avec grande attention et à mi-voix.